feu la mort. C'est d'abord une citation détournée, une allusion, peut-être un pastiche, d'un titre d'un livre de Derrida, Feu la cendre, qui est une admirable méditation sur le reste, le deuil, le sacrifice, on en parlait tout à l'heure, l'holocauste, la dispersion, son retour. Dans ce texte, Derrida souligne que l'incinération est la marque de ce qui résiste au travail de deuil. La marque, dit-il, d'une affirmation de feu sans lieu ni deuil. Mais la cendre n'est pas la mort, et toute mort n'est-ce pas forcément des cendres. Il y a plusieurs manières de mourir, plusieurs manières de penser la mort. Feu la cendre ou feu la mort, les titres jouent tous les deux sur une homonymie, sur les deux sens du mot français feu, dont l'équivocité sémantique recouvre peut-être deux relations différentes à la mort. Comme vous savez, feu désigne dans notre langue, le plus souvent, le feu, la flamme qui réchauffe ou détruit, et par dérivation, l'ordre mortel de faire feu. Entendu ainsi, l'expression « feu la mort » retentirait comme une déclaration de guerre un peu emportée, naïve, « au feu la mort »,« feu sur la mort », etc., etc. Nous savons que le terme « feu » s'emploie néanmoins en français dans une locution un peu désuète pour qualifier un défunt, « feu un tel ». Dans ce cas, le titre ne se laisserait plus entendre comme un mot d'ordre belliqueux, mais comme cet étrange et paradoxal énoncé, « feu la mort est morte, sans définir la mort ». C'est qu'il ne s'agit pas du même feu. Le feu en tant que flamme dérivant du latin focus, le foyer, alors que feu comme désignation d'un défunt provient de fatum, le destin. Feu un tel se dit de celui qui accomplit son destin, l'inexorable destin de tout homme, de tout vivant, de tout animal certainement aussi, qui est de mourir. Ce qui engage une certaine conception de la destinée humaine, de l'existence comme finitude, et assigne à la pensée sa tâche. De nous apprendre à mourir, de nous exercer à mourir, d'anticiper notre mort, selon une vénérable tradition qui irait de Platon et des stoïciens, Fatum, jusqu'à Heidegger. Elle diffère cette autre conception qui en appelle à une victoire ultime sur la mort, au point d'annoncer la mort de la mort. Vision ardente où il y va d'une flamme, d'un lac de feu, où la mort serait la fin des temps précipités pour s'y consumer à jamais. Vous reconnaissez ici le kérigme final de l'Apocalypse de Jean, cette annonce eschatologique qui s'oppose radicalement à l'autre pensée de la mort que je venais d'évoquer, celle qui nous enseigne à lui faire bon accueil en acceptant notre finitude. En ce conflit, en ce différent entre deux pensées de la mort, où Derrida se situerait-il? Du côté de la finitude, de l'acceptation du destin, de l'anticipation du pouvoir mourir? Contre toute attente, je pense que ce n'est pas certain. L'Apocalypse, l'annonce et le ton apocalyptique s'y étaient déjà mesurés dans une conférence du colloque de Cerisy en 1980, d'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, qui a été réédité plus tard séparément chez Galilée. En prenant comme point de départ un écrit où Kant dénonçait le ton grand seigneur des mystagogues, Derrida en venait à s'interroger sur ce puissant programme qui, tout au long de l'histoire occidentale, ne cesse d'annoncer la fin et la fin de la fin. Il se demandait, je le cite, si c'est un ton l'eschatologie ou bien la voix elle-même, si toute voix n'est pas celle du dernier homme. La littérature est alors brièvement convoquée avec le nom de Blanchot, que nous allons bientôt retrouver. Il se demandait enfin si l'apocalyptique ne serait pas, je le cite, une condition transcendantale de tout discours, de toute expérience même, de toute marque ou de toute trace, c'est-à-dire de l'envoi divisible pour lequel il n'y a pas d'auto-présentation ni de destination assurée. Affirmation qui fait charnière entre ses travaux précédents sur l'envoi, sur la destinérance, et certains motifs qu'elle est déployée par la suite, comme la promesse, le messianisme, ou plutôt la messianicité sans messie. Mais sans jamais aborder ce qui est pourtant au cœur de l'annonce messianique et ou apocalyptique, bon, à supposer que ces deux notions se recouvrent, ce qui n'est pas absolument certain, je pense à cette promesse qu'au jour du Messie, les morts ressusciteront. Alors quel rapport y a-t-il entre une telle promesse et cette logique du deuil, cette terrible logique du deuil, disait-il, qui n'a cessé de travailler? Sans oublier cette énigmatique visée d'un deuil du deuil, celle d'un au-delà du principe de deuil, qui est, disait-il dans l'entretien, la seule chose qui finalement m'intéresse, cela même qui me fait écrire et parler, qui me donne et me retire l'idiome, ce qui n'est pas rien. Faire l'expérience du deuil revient toujours, selon l'expression du psychanalyste Daniel Lagache, à tuer le mort en nous. Donc à tracer une limite entre le moi vivant et le mort, à parvenir ainsi à se séparer de l'objet perdu tout en l'introjetant, en le digérant pour mieux l'expulser. Processus d'introjection qu'il importe de distinguer, comme le fait Derrida, à la suite d'Abraham et Torok, qu'il importe de distinguer de l'incorporation cryptique de l'objet mort dans le moi. Tuer le mort en faisant le deuil serait sa matrice, la condition quasi transcendantale de cette promesse messianique de tuer la mort. Faire son deuil, n'est-ce pas à chaque fois faire son deuil de la mort, et non seulement du mort ou de la morte, proclamer ici et maintenant la mort de la mort. Si ce n'est qu'en affirmant le deuil du deuil ou la mort de la mort, on maintient paradoxalement, on renforce même l'instance qu'on espérait révoquer. Bon, puisqu'en proclamant la mort de la mort, c'est encore la mort qui triomphe. Et Feu la mort, le titre que j'ai choisi, ne fait qu'énoncer ce paradoxe où la mort gagne à tous les coups. Alors sans doute faudrait-il confronter, mais il faudrait du temps pour cela, confronter le deuil du deuil aux différentes occurrences de ce geste d'Héridien qui consiste à redoubler un concept, la vérité de la vérité, la relève de la relève, la donation du don, etc., comme si ce redoublement permettait de dégager, disons, son quasi-transcendantal. Feu la cendre, feu la mort. En quel lieu atopique, en quel temps préoriginaire ou post-terminal s'est-on situé pour pouvoir proclamer cela ? En un temps toujours à venir, celui de la prophétie, de l'annonce messianique, ou bien en un temps toujours déjà passé, puisque la cendre et le deuil sont la trace d'un événement passé, d'une mort passée, ou bien les deux à la fois dans l'avenir le plus lointain d'un passé qui n'a jamais été présent. Et surtout, qui oserait l'énoncer ? Qui peut être assez vivant ou assez mort pour proférer non pas que je suis mort, comme Derrida n'a cessé d'écrire durant toute sa vie, mais que la mort elle-même est morte, que c'en est fini du deuil ? Profération encore plus inouïe que le « Je suis mort » du Val-de-Marne de Pau ou celle du chasseur Gracchus auquel Sam Weber faisait allusion tout à l'heure, car cet énoncé suppose un pas au-delà de la mort, qui n'est pas forcément un pas dans l'au-delà. Un pas au-delà de la mort, c'est-à-dire une survivance. Mais de quelle survie est-il ici question ? Quel rapport y a-t-il entre le motif d'Héridien de la survivance et ce vieux mot qu'il emploie presque jamais de résurrection ? Impossible d'aborder cette question sans se confronter à l'équivoque de la survivance. Car survivre et ses dérivés sont tout aussi ambigus que le verbe revivre, auquel Frédéric Worms, si présent, a consacré un superbe livre. Alors je me suis demandé en écoutant Sam Weber si la distinction en allemand entre Überleben et Fortleben recouvrait, et jusqu'à quel point, hein, l'ambiguïté du terme français survivre. Je ne suis pas assez bon germaniste pour trancher cette question qui n'est pas évidente. En tout cas, il arrive à Derrida de présenter la survie comme un surcroît de vie. Et le préfixe sur résonne alors d'un accent quasi nietzschéen, comme le préfixe sur dans le mot surhomme et surréaliste auquel Bataille avait consacré un texte assez féroce. Pourtant, le plus souvent, Derrida l'entend autrement, comme la revenance spectrale d'un ni vivant ni mort qui se survit à soi-même sans jamais avoir été soi-même, depuis la mort de qui n'a jamais été vivant, écrit-il dans Glas. Motif relancé constamment dans son œuvre. Par exemple, dans Parage, le survivant est toujours un fantôme. Et il est forcément, puisqu'il est toujours déjà, en deuil de soi, en deuil de cette singularité unique, irremplaçable, qu'il n'a jamais été, puisqu'il emporte le deuil. Dans le premier cas, la survie comme surcroît, comme résurgence de vie, pourrait s'approcher peut-être de la résurrection, ou plus exactement d'une certaine conception non chrétienne, voire antichrétienne, de la résurrection, par exemple de l'éternel retour, envisagé comme incessante renaissance, ou comme l'écrit Nietzsche, comme affirmation triomphante de la vie par-delà la mort. Mais nous savons que, à la différence de Heidegger et surtout de Deleuze, Derrida ne s'est jamais confronté directement à la pensée la plus secrète de Zarathustra. Peut-être parce qu'il se méfiait d'une affirmation univoque de la vie, d'une vie qui prétendrait se démarquer radicalement de la mort et en finir avec elle, et ne serait finalement qu'une présence pure sans différence, c'est-à-dire un autre nom de la mort. La vie pure, disait-il, est synonyme de la mort pure. Et je cite, « Et tout ce que je dis va aussi bien contre une philosophie de la vie que contre son simple contraire. » Et voilà pourquoi il lui fallait affirmer la survie au second sens comme vie sans vie, comme contamination indécidable de la vie et de la mort, peut-être aussi du fini et de l'infini, pour relancer un petit peu le très impressionnant exposé de Stanislas Julien de hier après-midi. Bon, ici, là, vous voyez que la référence à Blanchot devient absolument incontournable, pour autant qu'elle permet de penser à un survivre sans survivre, entendez, sans surcroît de vie. Lisant Blanchot, Derrida souligne, je le cite, que si l'on voulait à tout prix parler ici de résurrection, il n'y aurait ni christologie, ni vendredi saint spéculatif, ni vérité de la religion dans le savoir absolu, mais tout cela, la passion, la résurrection, le savoir absolu, sont mimés, répétés, déplacés dans la vie sans vie de cette survivance. Donc, Blanchot plutôt que Hegel. Le mourir sans mort d'une survie sans vie plutôt qu'une relève dialectique de la mort dans l'auto-affirmation d'une vie absolue. Mais aussi Blanchot au lieu de Heidegger, au plus près de Heidegger et très loin de lui. Car l'épreuve de la mort dont Blanchot s'est fait le témoin dissout la singularité et l'identité du soi. Il s'agit en effet, précise Derrida, dans le cas de Blanchot donc, d'une mort qui, pour être irremplaçable, et parce qu'elle est unique, n'est même pas individuelle. Proposition qui inquiéterait jusqu'à cette Jemeinigkeit, ce chaque fois mien du Dasein heideggerien. Donc encore une fois, bon, Blanchot au lieu de Hegel et de Heidegger, mais aussi bien Mallarmé au lieu de Platon, Bataille et Genet au lieu de Hegel. Ce n'est pas la première fois, vous le savez, qu'il a recours à la littérature pour inquiéter ou pour déjouer l'emprise du discours philosophique. Desserrer les taux de cette double prise, ce double bind du fini et de l'infini, de l'être à la mort et de la vie absolue, qui tient captive la pensée et l'empêche de penser la vie et la mort. Double bind qui prend la forme d'un pourri redoublé. Pour faire vite, nommons ces deux pôles, l'aporie de la relève et l'aporie de la finitude. Bon, la première, l'aporie de la relève, il s'explique avec elle longuement dans l'écriture à différence et plus longuement encore dans Glas. Bon, si j'avais du temps, je développerais ce point, mais je renonce absolument même à y faire allusion. Avec la seconde, il s'expliquait dans le livre qui porte ce titre, Aporie. Il y interroge la conception heideggerienne d'une saisie anticipante de sa mort par le Dasein, qui le ferait accéder à sa possibilité la plus propre, en assurant ainsi son individuation la plus radicale. Ce qui présuppose que le Dasein puisse attester de sa mort comme telle, se faire le témoin de sa propre mort, alors qu'il faut rester en vie pour pouvoir en témoigner. Car c'est, écrit Derrida, c'est en tant que vivant ou mourant, mourant, demeurant en vie, et souligne le demeurant, qu'il atteste de l'être pour la mort. L'analytique existentielle du Dasein achoppe ainsi sur l'énigme d'un ni vivant ni mort, encore en vie dans le déjà-là de sa mort, qui est précisément la survivance comme deuil de soi. Or, souligne Derrida, Heidegger ne veut rien connaître du revenant et du deuil. En voulant fonder l'ipséité du Dasein sur l'anticipation de sa mort à venir, l'auteur d'Être et Temps a méconnu une autre possibilité, que cette ipséité soit constituée à partir d'un deuil originaire, qui serait comme tout deuil à la fois un deuil de soi et le deuil d'un autre. Si bien, écrit encore Derrida, que son rapport à soi accueille ou suppose l'autre au-dedans de son être soi-même comme différent de soi. Son ipséité se découvre alors irrémédiablement fêlée, entamée par ce rapport pré-originaire à l'autre, par la structure d'une irréductible auto-hétéro-affection. Alors, toute la question, bon, mais j'ai travaillé ailleurs, est en jetant de savoir quel est l'hétéron de cette auto-hétéro-affection et comment se noue le rapport entre l'automne et l'hétéron, mais bon, c'est une question difficile. En tout cas, c'est cette altération pré-originaire de soi-même que Heidegger, à la différence de Lévinas, peut-être déjà de Hegel, ne parvient pas à penser. Pas plus que Heidegger ne parvient à appréhender la torsion temporelle impliquée dans le deuil de soi originaire, ce mourir que Blanchot désigne parfois comme l'imminence incessante de ce qui s'est toujours déjà passé. Blanchot fait ainsi un pas au-delà de Heidegger, au-delà de cette limite que la finitude du Dasein lui impose en lui interdisant d'éprouver sa mort. Derrida avait repéré autrefois chez Blanchot l'insistance d'un X sans X, c'était aussi évoqué hier, le nom sans nom, le malheur sans malheur, l'être sans être, c'est Pierre-Philippe Jandin qui l'évoquait. Bon, logique donc du X sans X qui culmine dans une série d'énoncés sur la vie et la mort, par exemple, mort sans mort, survivre sans survivre, vivre sans vivant, comme mourir sans mort, etc. etc. Alors il serait intéressant de confronter cette logique blanchotienne du X sans X, logique du neutre, comme annulation des contraires, avec le geste d'Iridien que je mentionnais tout à l'heure, geste de redoublement quasi transcendantal sur le mode X de X, et non pas X sans X. Bon, c'est encore une question que je laisse ouverte. En tout cas, il arrive à Derrida de conjuguer lui-même les deux gestes, par exemple lorsqu'il parle de la vérité sans vérité de la vérité. Donc il y a au moins trois logiques qui seraient en jeu ici. Alors peut-être est-ce une telle conception, une telle conjonction qu'il découvre dans un récit de Blanchot où celui-ci se met en scène ce qu'on pourrait appeler une mort sans mort de la mort. Dans la conférence intitulée « Demeure », Derrida revient sur la neutralisation blanchotienne de la vie la mort. Bon, Blanchot venait justement de publier 2 ans plus tôt « L'instant de ma mort », que vous connaissez, qui est un récit de style autobiographique, plutôt auto-thanatographique, dirait Derrida, qui raconte un épisode survenu peu avant la libération. Alors qu'il s'agit d'un témoignage authentique ou fictif n'a ici strictement aucune importance. Je me souviens d'un jeune homme empêché de mourir par la mort elle-même. Soupçonné de participer à la résistance, le narrateur anonyme du récit avait été arrêté par les Allemands et conduit devant un peloton d'exécution. Au moment où le lieutenant nazi allait crier « feu », survient, dit Derrida, un autre feu, un contre-feu. Donc on est bien dans la logique du feu la mort. À savoir une fusillade déclenchée par les résistants pour sauver, semble-t-il, le narrateur. Alors c'est alors que les soldats, qui n'étaient pas des vrais Allemands, mais bon, c'est alors que les soldats laissent partir le narrateur, qui se retrouve ainsi vivant par-delà sa mort, et hanté à jamais par l'expérience impossible d'une mort qui n'a jamais eu lieu, ou plutôt qui a eu lieu sans avoir lieu, qui n'est arrivée qu'à ne pas arriver, pour employer un syntagme courant chez Derrida. Alors bien loin de le délivrer ou de le rendre à la vie, cette interruption du mourir le laissera pour toujours en instance de mort. D'une mort qui n'est donc pas sa propre mort, puisqu'il n'est pas mort en fait, qui le dépossède donc de toute identité propre en le vouant à la survivance d'un vivre sans vie. À ce que Derrida propose de nommer la demeurance, où il convient d'entendre, dit-il, non seulement ce qui séjourne et se maintient à travers le temps dans une demeure, mais aussi, je cite toujours, mais aussi l'expérience inéprouvée de qui meurt, là où deux meurent, ne meurent pas, ou des meurent dans le moment où ils meurent. Bon. Alors, cette expérience singulière du démourir, qui est la demeurance, une certaine relation au nazisme est en jeu, puisque, bon, Derrida le souligne, le lieutenant est désigné non pas comme allemand, mais comme nazi. Donc, au nazisme, avec tout ce que cela implique historiquement. C'est pourtant une piste où Derrida, dans sa lecture de Blanchot, ne s'engagera pas. Et pourtant, cette survie spectrale qui s'inscrit en filigrane dans tous les écrits de Blanchot, peut-être aussi dans ceux de Derrida, est-elle absolument différente de cette autre épreuve de mort dont parle Adorno? Bon, j'évoque encore Adorno après Sam Weber, ce qu'Adorno appelle dans la dialectique négative une mort pire que la mort, hein, dont le XXe siècle nous a pris la possibilité. Alors, Blanchot s'y confrontait à plusieurs reprises, par exemple dans l'écriture du désastre. Et pourtant, la lecture d'Héridienne de l'instant de ma mort n'aborde pas ce qu'il désigne ailleurs, en lisant Solane, comme la menace d'une crypte absolue. Nous savons cependant que, contrairement à Lyotard, contrairement à la Coulabarthe, pour ne parler que de proches, Derrida aura le plus souvent laissé cette crypte scellée. Alors si on pouvait tenir compte, dans la pensée et l'écriture, de cette autre mort pire que la mort, mais est-ce seulement possible? Toutes les questions qui se posent ici, toutes ces apories de la vie, la mort, du deuil, du spectre, de la revenance, de la survivance, devraient être sans doute profondément réélaborées. Bon, impossible encore de le faire en un temps limité. Qui est le survivant? Si quelqu'un pouvait survivre à l'instant de sa mort, pourrait-il encore en témoigner en première personne? Blanchot a choisi de laisser anonyme le narrateur son récit, sans doute parce qu'il avait pris acte depuis longtemps de ce deuil de soi, de cet effacement du jeu dans l'instance du mourir. À travers l'impossible expérience de ma mort, écrivait-il dans l'espace littéraire, donc moins une trentaine d'années avant, dans les années 50, dans l'expérience de ma mort, je ne meurs pas, je suis déchu du pouvoir de mourir, en elle on meurt, on ne cesse pas et on n'en finit pas de mourir. Donc il retourne en quelque sorte le on meurt qui pour Heidegger est le comble d'une authenticité pour en faire au contraire la vérité même du rapport au mourir. Dans l'instant de ma mort, cette destitution du jeu prend la forme d'un étrange dialogue, post-mortem peut-on dire, ou plutôt d'une interpellation du jeu par un autre sujet, si c'en est un, par une autre voix en tout cas, qui est tout aussi anonyme. « Je suis vivant, non tu es mort. » Autant dire, remarque Derrida, je cite donc Demeure, que ce qui fut moi n'est plus moi, l'ego cogito. Et ce qui sépare les deux identités égologiques n'est rien de moins que la mort même. Donc vous le voyez, l'insoutenable épreuve d'une mort sans mort divise irrévocablement le jeu de lui-même, le dédouble en un jeu affirmant qu'il est vivant et un tu qui l'interpelle comme déjà mort. Ce qui lui interdit de se rassembler dans la conscience de soi du sujet hegelien ou aussi bien l'ipséité finie du Dasein et des Guériens. Et c'est une leçon assez voisine de celle que Derrida lui-même avait tirée du Val-de-Marne d'Edgar Poe. L'impossible énoncé « je suis mort », qui est aussi celui du chasseur Gracchus, signifie en même temps la mort du jeu, son devenir anonyme ou testamentaire, sa revenance endeuillée, spectrale. Selon un geste de destitution de l'ego qu'il partage avec d'autres contemporains, beaucoup d'autres, Bataille, Sartre, Lacan, Deleuze, que j'ai proposé ailleurs d'appeler « égicide ». Alors ici, il n'est absolument pas question de déployer toutes les implications de ce geste, d'en exposer les présupposés et les limites. Bon, je l'ai fait dans d'autres endroits. Enfin, simplement, je voudrais rappeler, et j'approche de la conclusion, je te rassure, je voudrais rappeler que cette non-expérience de la mort, cette expérience qui n'est pas une expérience, et qui était celle de Blanchot, que Derrida met en avant, n'est pas la seule dont la littérature et l'art de notre temps nous font part. Qu'un autre rapport à la vie, la mort, une autre survivance, sont possibles. Alors il faudrait, j'ai parlé de la littérature et de l'art, il faudrait, si nous avions du temps, mais il faudrait beaucoup de temps, évoquer le rôle que joue cette traversée de la mort dans le parcours de différents artistes, et notamment, je pense à deux plasticiens contemporains, qui ont été tous les deux pilotes de guerre, tous les deux victimes d'un accident d'avion pendant la guerre, un Allemand, Joseph Beuys, et un Américain, Sam Francis, et qui ont puisé dans ce crash, dans cet accident, cette traversée qu'ils ont laissée pour mort, qui ont puisé la matière de leur œuvre, le désir de peindre dans le cas de Sam Francis, l'obsession du feutre et de la graisse qui alimente toute l'œuvre des installations de Beuys. Mais bon, je laisse point là de côté. « Je suis mort depuis longtemps », écrivait Artaud dans les années 20. « Je suis déjà suicidé. On m'a suicidé. » Et il souligne le « on ». Et quelques années plus tard, j'ai toujours su que j'étais Artaud le mort. Artaud se considère en effet, dit-il, comme une momie de chair fraîche, un mort-né, un mort-vivant, voué à l'existence spectrale de ce qui n'est ni mort ni vivant, l'innommable. Autant d'énoncés auto-tintographiques où s'affirme l'étrange savoir d'un deuil antérieur de soi-même, d'un devenir neutre de sa mort qui le situerait tout près du « on meurt » de Blanchot. Si ce n'est que, à partir d'un certain moment, qui coïncide sans doute avec sa traversée de la folie, avec ce qu'on pourrait appeler sa guérison, avec beaucoup de prudence, en tout cas avec son retour hors de l'asile de Rodez, ces énoncés auto-tintographiques vont laisser place à autre chose qui est très énigmatique, à l'affirmation victorieuse d'une vie plus puissante que la mort. Comme il écrit dans les cahiers de Rodez, en 1945 donc, « J'ai franchi la mort, la sombre mort, par la vie, et rester mort, c'est trahir la vie. » Comme Blanchot, comme tant d'autres, comme tant d'autres qui ont traversé aussi la guerre et l'occupation, parce que là, c'est aussi cela qui est en jeu, et le risque de mort auquel Artaud était exposé, mourir de faim dans les asiles psychiatriques français, qui pratiquaient une euthanasie sans gaz, disons. Donc Artaud se vit en effet comme un survivant, poussière d'innombrables mois survivants, dit-il. Mais il identifie désormais sa survie à un surcroît de vie, au franchissement d'une limite, de ce point qu'il appelle le point de mort. Et qui désigne aussi bien, point 2, qui désigne aussi bien le pas de mort, son pas là, l'inanité ou l'imposture de la mort. La mort d'une imposture, c'est un énoncé de Bataille pour le coup. Alors si Artaud continue d'affirmer une précédence, ce n'est plus celle de la mort sur la vie dans la torsion temporelle d'un deuil antérieur, mais c'est celle de la vie elle-même, envisagée comme recréation continuée, comme perpétuelle renaissance. Il s'agit, écrit-il, de naître à la vie dans la vie, car à chaque instant vécu, nous précédons notre propre naissance. Ces énoncés inouïs, comment les entendre? Comme ceux de Blanchot, ils s'enracinent d'une expérience personnelle, comme ceux aussi comme le travail de Beuys ou de Saint Francis ou de beaucoup d'autres, en fait. Dans le cas d'Artaud, c'est l'expérience, son effondrement en Irlande, en 37, son internement dans divers asiles, de l'épreuve d'électrochoc subie à l'asile de Rodez, où, dit-il, ma mort était cliniquement constatée, et j'en suis revenu comme un mort qui revient de l'au-delà. Et c'est aussi l'expérience, son retour à l'écriture à partir de 44-45, de cette guérison, si on peut employer ce terme, son retour à la vie qu'il vit effectivement comme une résurrection, comme une immortalité réelle, dit-il. Et cependant, tout autant que celle de Blanchot, son écriture et sa pensée ne se laissent pas réduire, ne se laissent pas expliquer par ces circonstances auto-bio-thanatographiques. Alors faut-il, là je conclue, faut-il y repérer, comme Derrida l'a parfois suggéré, faut-il repérer chez Artaud le fantasme d'une parousie absolue, l'empreinte d'une métaphysique de la vie, d'une vie sans mort, qui s'imaginerait que la mort est morte, que la vie en a fini avec les spectres, avec la revenance, avec le deuil. Rien interdit de le croire. Sinon peut-être, certains énoncés d'Artaud lui-même, où il réaffirme l'irréductible nouage de la vie, la mort, dans l'existence et dans le poème, leur entrelacs, leur chiasme, mais sous le primat de la vie. Donc très près de Derrida, entrelacs de la vie, la mort, quasi indécidable, mais en même temps tout à fait ailleurs, puisque chez Derrida, je pense que ça reste sous le primat de la mort, et chez Artaud, ça se renverse en primat de la vie. Car, dit-il, là je cite Suppôt et Supplication, qu'il a écrit à Paris à son retour, enfin qu'il a dicté à son retour de Rodez, car le secret de mon existence est que je suis un morceau de bois mort, toujours vivant, d'autant plus vivant qu'il est mort. Alors n'était-ce pas sa manière singulière d'affirmer sans cesse la survie, de préférer toujours la vie ? Je vous remercie.